Honoré de Balzac, La recherche de l'absolu. Il existe à Douai, dans la rue de Paris, une maison dont la physionomie, les dispositions intérieures et les détails ont, plus que ceux d'aucun autre logis, gardé le caractère des vieilles constructions flamandes, si naïvement appropriées aux mœurs patriarcales de ce bon pays. Mais avant de la décrire, peut-être faut-il établir, dans l'intérêt des écrivains, la nécessité de ces préparations didactiques contre lesquelles protestent certaines personnes ignorantes et voraces qui voudraient les émotions sans en subir les principes générateurs, la fleur sans la graine, l'enfant sans la gestation. L'art serait-il donc tenu d'être plus fort que ne l'est la nature ? Les événements de la vie humaine, soit publics, soit privés, sont si intimement liés à l'architecture que la plupart des observateurs peuvent reconstruire les nations ou les individus dans toute la vérité de leurs habitudes, d'après les restes de leurs monuments publics ou par l'examen de leurs reliques domestiques. L'archéologie est à la nature sociale ce que l'anatomie comparée est à la nature organisée. Une mosaïque révèle toute une société, comme un squelette d'ichthyosaure sous-entend toute une création. De part et d'autre, tout se déduit, tout s'enchaîne. La cause fait deviner un effet, comme chaque effet permet de remonter à une cause. Le savant ressuscite ainsi jusqu'aux verrues des vieux âges. De là vient sans doute le prodigieux intérêt qu'inspire une description architecturale quand la fantaisie de l'écrivain ne dénature point les événements. Chacun ne peut-il pas la rattacher au passé par de sévères déductions ? Et pour l'homme, le passé ressemble singulièrement à l'avenir. Lui raconter ce qui fut, n'est-ce pas presque toujours lui dire ce qui sera ? Enfin, il est rare que la peinture des lieux où la vie s'écoule ne rappelle à chacun ou ses vœux trahis ou ses espérances en fleurs. La comparaison entre un présent qui trompe les vouloirs secrets et l'avenir qui peut les réaliser est une source inépuisable de mélancolie ou de satisfaction douce. Aussi est-il presque impossible de ne pas être pris d'une espèce d'attendrissement à la peinture de la vie flamande quand les accessoires en sont bien rendus. Pourquoi ? Peut-être est-ce, parmi les différentes existences, celle qui finit le mieux les incertitudes de l'homme. Elle ne va pas sans toutes les fêtes, sans tous les liens de la famille, sans une grasse aisance qui atteste la continuité du bien-être, sans un repos qui ressemble à de la béatitude. Mais elle exprime surtout le calme et la monotonie d'un bonheur naïvement sensuel, où la jouissance étouffe le désir en le prévenant toujours. Quelque prix que l'homme passionné puisse attacher au tumulte des sentiments, il ne voit jamais sans émotion les images de cette nature sociale, où les battements du cœur sont bien réglés, que les gens superficiels l'accusent de froideur. La foule préfère généralement la force anormale qui déborde à la force égale qui persiste. La foule n'a ni le temps ni la patience de constater l'immense pouvoir caché sous une apparence uniforme. Aussi, pour frapper cette foule emportée par le courant de la vie, la passion, de même que le grand artiste, n'a-t-elle d'autre ressource que d'aller au-delà du but, comme ont fait Michel-Ange, Bianca Capello, Mademoiselle de la Vallière, Beethoven et Paganini. Les grands calculateurs seuls pensent qu'il ne faut jamais dépasser le but, et non de respect que pour la virtualité empreinte dans un parfait accomplissement qui met tout en œuvre ce calme profond dont le charme saisit les hommes supérieurs. Or, la vie adoptée par ce peuple essentiellement économe remplit bien les conditions de félicité que rêvent les masses pour la vie citoyenne et bourgeoise. La matérialité la plus exquise est empreinte dans toutes les habitudes flamandes. Le confort anglais offre des teintes sèches, des tons durs, tandis qu'en Flandre, le vieil intérieur des ménages réjouit l'œil par des couleurs moelleuses, par une bonhomie virée. Il applique le travail sans fatigue. La pipe y dénote une heureuse application du farniente napolitain. Puis il accuse un sentiment paisible de l'art, sa condition la plus nécessaire, la patience et l'élément qui rend les récréations durables, la conscience. Le caractère flamand est dans ces deux mots, patience et conscience, qui semblent exclure les riches nuances de la poésie et rendre les mœurs de ce pays aussi plates que le sont les larges plaines et aussi froides que l'est son ciel brumeux. Rien n'est moins, il n'en est rien. La civilisation a déployé là son pouvoir, en y modifiant tout, même les effets du climat. Si l'on observe avec attention les produits des divers pays du globe, on est tout d'abord surpris de voir les couleurs grises et fauves, spécialement affectées aux productions des zones tempérées, tandis que les couleurs les plus éclatantes distinguent celles des pays chauds. Les mœurs doivent nécessairement se conformer à cette loi de la nature. Les Flandres, qui jadis étaient essentiellement brunes et vouées à des teintes unies, ont trouvé les moyens de jeter de l'éclat dans leur atmosphère fuligineuse par les vicissitudes politiques qui les ont successivement soumises aux Bourguignons, aux Espagnols, aux Français et qui les ont fait fraterniser avec les Allemands et les Hollandais. De l'Espagne, elles ont gardé le luxe des écarlates, les satins brillants, les tapisseries à effets vigoureux, les plumes, les mandolines et les formes courtoises. De Venise, elles ont eu en échange, de leur toile et de leur dentelle, cette verrerie fantastique où le vin reluit et semble meilleur. De l'Autriche, elles ont conservé cette pesante diplomatie qui, suivant un dicton populaire, fait trois pas dans un boisseau. Le commerce avec les Indes y a versé les inventions grotesques de la Chine et les merveilles du Japon. Cependant, malgré leur patience à tout ramasser, à ne rien rendre, à tout supporter, les Flandres ne pouvaient guère être considérées que comme le magasin général de l'Europe, jusqu'au moment où la découverte du tabac souda par la fumée les traits épars de leur physionomie nationale. Dès lors, en dépit des morcellements de son territoire, le peuple flamand exista de par la pipe et par la bière. Après s'être assimilé par la constante économie de sa conduite, les richesses et les idées de ses maîtres ou de ses voisins, ce pays, si nativement terne et dépourvu de poésie, se composa une vie originale et des mœurs caractéristiques, sans paraître entachée de servilité. L'un y dépouilla toute l'idéalité pour reproduire uniquement la France. Aussi, ne demandez à cette patrie de la poésie plastique ni la verve de la comédie, ni l'action dramatique, ni les jets hardis de l'épopée ou de l'ode, ni le génie musical. Mais elle est fertile en découvertes, en discussions doctorales, qui veulent et le temps et la lampe. Tout y est frappé au coin de la jouissance temporelle. L'homme y voit exclusivement ce qui est. Sa pensée se courbe si scrupuleusement à servir les besoins de la vie, qu'en aucune œuvre ne s'est élancée au-delà du monde réel. La seule idée d'avenir conçue par ce peuple, fut une sorte d'économie en politique, et sa force révolutionnaire vint du désir domestique d'avoir les coudées franches à table et son aise complète sous le vent de ses stèles. Le sentiment du bien-être et l'esprit indépendance qu'inspire la fortune engendrèrent là plutôt qu'ailleurs ce besoin de liberté qui plus tard travaille à l'Europe. Aussi, la constance de leurs idées et la ténacité que l'éducation donne aux Flamands en firent-elles autrefois des hommes redoutables dans la défense de leurs droits. Chez ce peuple, rien donc ne se façonne à demi, ni les maisons, ni les meubles, ni la digue, ni la culture, ni la révolte. Aussi garde-t-il le monopole de ce qu'il entreprend. La fabrication de la dentelle, œuvre de patiente agriculture et de plus patiente industrie, celle de sa toile, sont héréditaires comme ses fortunes patrimoniales. S'il fallait peindre la constance sous la forme humaine la plus pure, peut-être serait-on dans le vrai en prenant le portrait d'un bon bourgmestre des Pays-Bas, capable, comme s'il en était rencontré, de mourir bourgeoisement et sans éclat pour les intérêts de la Hanse. Mais les douces poésies de cette vie patriarcale se retrouvant naturellement dans la peinture d'une des dernières maisons qui, au temps où cette histoire commence, en conservait encore le caractère à Douai. De toutes les villes du département du Nord, Douai, hélas, celle qui se modernise le plus, où le sentiment innovateur a fait les plus rapides conquêtes, où l'amour du progrès social est le plus répandu. Là, les vieilles constructions disparaissent de jour en jour. Les antiques mœurs s'effacent. Le ton, les modes, les façons de Paris y dominent. Et de l'ancienne vie flamande, les Douaisiens n'auront plus bientôt que la cordialité des soins hospitaliers, la courtoisie espagnole, la richesse et la propreté de la Hollande. Les hôtels en pierre blanche auront remplacé les maisons de briques. Le cossu des formes bataves aura cédé devant la changeante élégance des nouveautés françaises. La maison où sont passés les événements de cette histoire se trouve à peu près au milieu de la rue de Paris et porte à Douai, depuis plus de 200 ans, le nom de la maison Claës. Les Van Claës furent jadis une des plus célèbres familles d'artisans auxquelles les Pays-Bas durent, dans plusieurs productions, une suprématie commerciale qu'ils ont gardée. Pendant longtemps, les Claës furent, dans la ville de Gand, de père en fils, les chefs de la puissante confrérie des tisserands. Lors de la révolte de cette grande cité contre Charles Quint, qui voulait en supprimer les privilèges, le plus riche des Claës fut si fortement compromis que, prévoyant une catastrophe et forcé de partager le sort de ses compagnons, il envoya secrètement, sous la protection de la France, sa femme, ses enfants et ses richesses avant que les troupes de l'empereur n'eussent investi la ville. Les prédictions du syndic des tisserands étaient justes. Il fut, ainsi que plusieurs autres bourgeois, excepté de la capitale et pendu comme rebelle, tandis qu'il était en réalité le défenseur de l'indépendance gantoise. La mort de Claës et de ses compagnons porta ses fruits. Plus tard, ces supplices inutiles coûtèrent au roi des Espagnes la plus grande partie de ses possessions dans les Pays-Bas. De toutes les semences confiées à la terre, le sang versé par les martyrs est celle qui donne la plus prompte moisson. Quand Philippe II, qui punissait la révolte jusqu'à la seconde génération, étendit sur Douai son sceptre de fer, les Claës conservèrent leur grand bien en s'alliant à la très noble famille de Molina, dont la branche aînée, alors pauvre, devint assez riche pour pouvoir acheter le comté de Nouraud, qu'elle ne possédait que titulairement dans le royaume de Léon. Au commencement du XIXe siècle, après des vicissitudes dont le tableau n'offrirait rien d'intéressant, la famille Claës était représentée, dans la branche établie à Douai, par la personne de M. Balthazar Claës Molina, comte de Nouraud, qui tenait à s'appeler tout uniquement Balthazar Claës. de l'immense fortune amassée par ses ancêtres qui faisait mouvoir un millier de métiers, il restait à Balthazar environ 15 000 livres de rente en fonds de terre dans l'arrondissement de Douai et la maison de la rue de Paris dont le mobilier valait d'ailleurs une fortune. Quant aux possessions du royaume de Léon, elles avaient été l'objet d'un procès entre les Molina de Flandre et la branche de cette famille restée en Espagne. Les Molina de Léon gagnèrent les domaines et prirent le titre de comte de Nujo, quoique les Claës eussent seul le droit de le porter. Mais la vanité de la bourgeoisie belge était supérieure à la morgue castillane. Aussi, quand l'état civil fut institué, Balthazar Claës laissa-t-il de côté les haillons de sa noblesse espagnole pour sa grande illustration gantoise. Le sentiment patriotique existe si fortement chez les familles exilées que jusque dans les derniers jours du XVIIIe siècle, les Claës étaient demeurés fidèles à leurs traditions, à leurs mœurs et à leurs usages. Ils ne s'alliaient qu'aux familles de la plus pure bourgeoisie. Il leur fallait un certain nombre d'échevins ou de bourgmestres du côté de la fiancée pour admettre dans leur famille. Enfin, ils allaient chercher leurs femmes à Bruges ou à Gand, à Liège ou en Hollande, afin de perpétuer les coutumes de leur foyer domestique. Vers la fin du dernier siècle, leur société, de plus en plus restreinte, se bornait à 7 ou 8 familles de noblesse parlementaire, dont les mœurs, dont la toge à grand pli, dont la gravité magistrale, mi-partie d'Espagnol, s'harmonisaient à leurs habitudes. Les habitants de la ville portaient une sorte de respect religieux à cette famille qui, pour eux, était comme un préjugé. La constante honnêteté, la loyauté sans tache des Claës, leur invariable décorum, faisaient d'eux une superstition aussi invétérée que celle de la fête de Gaillan et bien exprimée par ce nom, la maison Claës. L'esprit de la vieille Flandre respirait tout entier dans cette habitation qui offrait aux amateurs d'antiquité bourgeoise le type des modernes maisons que se construit la riche bourgeoisie au Moyen-Âge. Le principal ornement de la façade était une porte à 2 vantaux en chêne, garnie de clous disposés en quinconce, au centre desquels les Claës avaient fait sculpter par orgueil 2 navettes accouplées. La baie de cette porte, édifiée en pierre de grès, se terminait par un cintre pointu qui supportait une petite lanterne surmontée d'une croix et dans laquelle se voyait une statuette de Sainte-Geneviève filant sa quenouille. Quoique le temps eût jeté sa teinte sur les travaux délicats de cette porte et de la lanterne, le soin extrême qu'en prenaient les gens du logis permettait aux passants d'en saisir tous les détails. Aussi le chambranle, composé de colonnettes assemblées, conservait-il une couleur gris foncé et brillait-il de manière à faire croire qu'il avait été verni. De chaque côté de la porte, au rez-de-chaussée, se trouvaient 2 croisées semblables à toutes celles de la maison. Leur encadrement en pierre blanche finissait sous l'appui par une coquille richement ornée, en haut par 2 arcades que séparait le montant de la croix qui divisait le vitrage en 4 parties inégales, car la traverse, placée à la hauteur voulue pour figurer une croix, donnait aux 2 côtés inférieurs de la croisée une dimension presque double de celle des parties supérieures, arrondies par leur cintre. La double arcade avait pour enjolivement 3 rangées de briques qui s'avançaient l'une sur l'autre, et dont chaque brique était alternativement saillante ou retirée d'un pouce environ de manière à dessiner une grecque. Les vitres, petites et en losange, étaient enchâssées dans des branches en fer extrêmement minces et peintes en rouge. Les murs, bâtis en briques rejointoyées avec un mortier blanc, étaient soutenus de distance en distance et aux angles par des chaînes en pierre. Le premier étage était percé de cinq croisées, le second n'en avait plus que trois, et le grenier tirait son jour d'une grande ouverture ronde à cinq compartiments, bordée en grès et placée au milieu du fronton triangulaire que décrivait le pignon comme la rose dans le portail d'une cathédrale. Au faîte, s'élevait en guise de girouette une quenouille chargée de lin. Les deux côtés du grand triangle que formait le mur du pignon étaient découpés carrément par des espèces de marches jusqu'au couronnement du premier étage, où, à droite et à gauche de la maison, tombaient les eaux pluviales rejetées par la gueule d'un animal fantastique. Au bas de la maison, une assise en grès y simulait une marche. Enfin, dernier vestige des anciennes coutumes, de chaque côté de la porte, entre les deux fenêtres, se trouvait dans la rue une trappe en bois garnie de grandes bandes de fer par laquelle on pénétrait dans les caves. Depuis sa construction, cette façade se nettoyait soigneusement deux fois par an. Si quelque peu de mortier manquait dans un joint, le trou se rebouchait aussitôt. Les croisées, les appuis, les pierres, tout était épousseté mieux que ne sont époussetés à Paris les marbres les plus précieux. Ce devant de maison n'offrait donc aucune trace de dégradation. Malgré les teintes foncées causées par la vétusté même de la brique, il était aussi bien conservé que peuvent l'être un vieux tableau, un vieux livre chéri par un amateur, et qui serait toujours neuf s'il ne subissait, sous la cloche de notre atmosphère, l'influence des gaz dont la malignité nous menace nous-mêmes. Le ciel nuageux, la température humide de la Flandre et les ombres produites par le peu de largeur de la rue ôtaient fort souvent à cette construction le lustre qu'elle empruntait à sa propreté recherchée, qui d'ailleurs la rendait froide et triste à l'œil. Un poète aurait aimé quelques herbes dans les jours de la lanterne ou des mousses sur les découpures du grès. Il aurait souhaité que ces rangées de briques se fussent fendillées, que sous les arcades des croisées, quelque hirondelle eût maçonné son nid dans les triples cases rouges qui les ornaient. Aussi le fini, l'air propre de cette façade à demi râpée par le frottement, lui donnait-il un aspect sèchement honnête et décemment estimable, qui certes aurait fait déménager un romantique s'il eût logé en face. Quand un visiteur avait tiré le cordon de la sonnette en fer tressé qui pendait le long du chambranle de la porte, et que la servante, venue de l'intérieur, lui avait ouvert le battant, au milieu duquel était une petite grille, ce battant échappait aussitôt de la main, emporté par son poids, et retombait en rampant sous les voûtes d'une spacieuse galerie dallée et dans les profondeurs de la maison, un son grave et lourd, comme si la porte eût été de bronze. Cette galerie, peinte en marbre, toujours fraîche et semée d'une couche de sable fin, conduisait à une grande cour carrée intérieure, pavé en larges carreaux vernissés de couleur verdâtre. À gauche se trouvaient la lingerie, les cuisines, la salle des gens, à droite le bûcher, le magasin au charbon de terre et les communs du logis dont les portes, les croisées, les murs étaient ornés de dessins entretenus dans une exquise propreté. Le jour, tamisé entre quatre murailles rouges rayées de filets blancs, y contractait des reflets, des teintes roses, qui prêtaient aux figures et aux moindres détails une grâce mystérieuse et de fantastiques apparences. Une seconde maison, absolument semblable au bâtiment situé sur le devant de la rue, et qui dans la Flandre porte le nom de quartier de derrière, s'élevait au fond de cette cour et servait uniquement à l'habitation de la famille. Au rez-de-chaussée, la première pièce était un parloir éclairé par deux croisées du côté de la cour et par deux autres qui donnaient sur un jardin dont la longueur égalait celle de la maison. Deux portes vitrées parallèles conduisaient l'une au jardin, l'autre à la cour, et correspondaient à la porte de la rue, de manière à ce que, dès l'entrée, un étranger pouvait embrasser l'ensemble de cette demeure et apercevoir jusqu'au feuillage qui tapissait le fond du jardin. Le logis de devant, destiné aux réceptions, et dont le second étage contenait les appartements à donner aux étrangers, renfermait certes des objets d'art et de grandes richesses accumulées, mais rien ne pouvait égaler aux yeux des classes, ni au jugement d'un connaisseur, les trésors qui ornaient cette pièce où depuis deux siècles s'était écoulée la vie de la famille. Le Claës mort pour la cause des libertés gantoises, l'artisan de qui l'on prendrait une trop mince idée, si l'historien m'était de dire qu'il possédait près de 40 000 marks d'argent gagnées dans la fabrication des voiles nécessaires à la toute-puissante maritime vénitienne, ce Claës eut pour ami le célèbre sculpteur en bois Van Huysium de Bruges. Maintes fois, l'artiste avait puisé dans la bourse de l'artisan. Quelque temps avant la révolte des Gantois, Van Huysium, devenu riche, avait secrètement sculpté pour son ami une boiserie en ébène massif où étaient représentées les principales scènes de la vie d'Armevelde, ce brasseur à un moment roi des Flandres. Ce revêtement, composé de 60 panneaux, contenait environ 1400 personnages principaux et passait pour l'œuvre capitale de Van Huysium. Le capitaine, chargé de garder les bourgeois que Charles Quint avait décidé de faire pendre le jour de son entrée dans sa ville natale, proposa, dit-on, à Van Claes de le laisser évader s'il lui donnait l'œuvre de Van Huysium. Mais le tissant l'avait envoyé en France. Ce parloir entièrement boisé avec ses panneaux que, par respect pour les mânes du martyr, Van Huysium va lui-même encadrer de bois peint en outre-mer, mélangé de filets d'or, est donc l'œuvre la plus complète de ce maître, dont aujourd'hui les moindres morceaux sont payés presque au poids de l'or. Au-dessus de la cheminée, Van Claes, peint par Titien dans son costume de président du tribunal des Parchons, semblait conduire encore cette famille qui vénérait en lui son grand homme. La cheminée, primitivement en pierre, à manteau très élevé, avait été reconstruite en marbre, lors dans le dernier siècle, et supportait un vieux cartel et deux flambeaux à 5 branches, de mauvais goût, mais en argent massif. Les 4 fenêtres étaient égorées de grands rideaux en damas rouge à fleurs noires, doublés de soie blanche, et le meuble, de même étoffe, avait été renouvelé sous Louis XIV. Le parquet, évidemment moderne, était composé de grandes plaques de bois blanc encadrées par des bandes de chêne. Le plafond formé de plusieurs cartouches, au fond desquelles était un mascaron ciselé par Van Huysium, avait été respecté et conservé l'étain brune du chêne de Hollande. Aux 4 coins de ce parloir s'élevaient des colonnes tronquées, surmontées par des flambeaux semblables à ceux de la cheminée. Une table ronde en occupait le milieu. Le long des murs étaient symétriquement rangées des tables à jouer. Sur 2 consoles dorées, à dessus de marbre blanc, se trouvaient, à l'époque où commence cette histoire, 2 globes de verre pleins d'eau dans lesquels nageaient, sur un lit de sable et de coquillages, des poissons rouges, dorés ou argentés. Cette pièce était à la fois brillante et sombre. Le plafond absorbait nécessairement la clarté, sans en rien refléter. Si du côté du jardin, le jour abondait et venait papilloter dans les tailles de l'ébène, les croisées de la cour, donnant peu de lumière, faisaient à peine briller les filets d'or imprimés sur les parois opposées. Ce parloir, si magnifique par un beau jour, était donc, la plupart du temps, rempli d'éteintes douces, des tons roux et mélancoliques que le soleil épanche sur la cime des forêts en automne. Il est inutile de continuer la description de la maison Claës dans les autres parties de laquelle se passeront nécessairement plusieurs scènes de cette histoire. Il suffit dans ce moment d'en connaître les principales dispositions. En 1812, vers les derniers jours du mois d'août, un dimanche après vêpres, une femme était assise dans sa bergère devant une des fenêtres du jardin. Les rayons du soleil tombaient alors obliquement sur la maison, la prenaient en écharpe, traversaient le parloir, expirait en reflets bizarres sur les boiseries qui tapissaient les murs du côté de la cour et enveloppait cette femme dans la zone pourpre projetée par le rideau de damas drapé le long de la fenêtre. Un peintre mélancolique, qui dans ce moment aurait copié cette femme, eût certes produit une œuvre saillante avec une tête si pleine de douleur et de mélancolie. La pose du corps et celle des pieds jetés en avant accusaient l'abattement d'une personne qui perd la conscience de son être physique dans la concentration de ses forces absorbées par une pensée fixe. Elle en suivait les rayonnements dans l'avenir, comme souvent au bord de la mer, on regarde un rayon de soleil qui perce les nuées et trace à l'horizon quelques bandes lumineuses. Les mains de cette femme, rejetées par les bras de la bergère, pendaient en dehors, et la tête, comme trop lourde, reposait sur le dossier. Une robe de percale blanche, très ample, empêchait de bien juger les proportions, et le corsage était dissimulé sous les plis d'une écharpe croisée sur la poitrine et négligemment nouée. Quand même la lumière n'aurait pas mis en relief son visage, qu'elle semblait se complaire à produire préalablement au reste de sa personne, il eût été impossible de ne pas s'en occuper alors exclusivement. Son expression, qui eût frappé le plus insouciant des enfants, était une stupéfaction persistante et froide, malgré quelques larmes brûlantes. Rien n'est plus terrible à voir que cette douleur extrême dont le débordement n'a lieu qu'à de rares intervalles, mais qui restait sur ce visage comme une lave figée autour du volcan. On eût dit une mère mourante, obligée de laisser ses enfants dans un abîme de misère, sans pouvoir leur léguer aucune protection humaine. La physionomie de cette dame, âgée d'environ 40 ans, mais alors beaucoup moins loin de la beauté qu'elle ne l'avait jamais été dans sa jeunesse, n'offrait aucun des caractères de la femme flamande. Une épaisse chevelure noire tombait en boucle sur les épaules et le long des joues. Son front, très bombé, étroit des tempes, était jaunâtre, mais sous ce front scintillaient deux yeux noirs qui jetaient des flammes. Sa figure toute espagnole, brune de ton, peu colorée, ravagée par la petite vérole, arrêtait le regard par la perfection de sa forme ovale, dont les contours conservaient, malgré l'altération des lignes, infinie d'une majestueuse élégance, et qui reparaissait parfois tout entier si quelque effort de l'âme lui restituait sa primitive pureté. Le trait qui dominait le plus de distinction à cette femme figure mâle était un nez courbé comme le bec d'un aigle et qui, trop bombé vers le milieu, semblait intérieurement mal conformé. Mais il y résidait une finesse indescriptible La cloison des narines en était si mince que sa transparence permettait à la lumière de la rougir fortement. Quoique les lèvres larges et très plissées décelassent la fierté qu'inspire une haute naissance, elles étaient empreintes d'une bonté naturelle et respiraient la politesse. On pouvait contester la beauté de cette figure à la fois vigoureuse et féminine, mais elle commandait l'attention. Petite, bossue et boiteuse, cette femme resta d'autant plus longtemps fille qu'on s'obstinait à lui refuser de l'esprit. Et néanmoins, il se rencontra quelques hommes fortement émus par l'ardeur passionnée qu'exprimait sa tête, par les indices d'une inépuisable tendresse, et qui demeurèrent sous un charme inconciliable avec tant de défauts. Elle tenait beaucoup de son aïeul, le duc de Casareal, grand d'Espagne. En cet instant, le charme qui jadis saisissait si despotiquement les âmes amoureuses de poésie jaillissait de sa tête plus vigoureusement qu'en aucun moment de sa vie passée et s'exerçait, pour ainsi dire, dans le vide, en exprimant une volonté fascinatrice, toute puissante sur les hommes, mais sans force sur les destinées. Quand ses yeux quittaient le bocal où elle regardait les poissons sans les voir, elle les relevait par un mouvement désespéré, comme pour invoquer le ciel. Ses souffrances semblaient être de celles qui ne peuvent se confier qu'à Dieu. Le silence n'était troublé que par des grillons, par quelques cigales qui criaient dans le petit jardin, d'où s'échappait une chaleur de four, et par le sourd retentissement de l'argenterie, des assiettes et des chaises, que remuait dans la pièce contiguë au parloir un domestique occupé à servir le dîner. En ce moment, la dame, affligée et prête à l'oreille, y parut se recueillir. Elle prit son mouchoir, essuya ses larmes, essaya de sourire, et détruisit si bien l'expression de douleur gravée dans tous ses traits, qu'on eût pu la croire dans cet état d'indifférence où nous laisse une vie exempte d'inquiétude. Soit que l'habitude de vivre dans cette maison où la confinaient ses infirmités lui eût permis d'y reconnaître quelques efforts naturels imperceptibles pour d'autres, et que les personnes en proie à des sentiments extrêmes recherchent vivement, soit que la nature eût compensé tant de disgrâces physiques en lui donnant des sensations plus délicates qu'à des êtres en apparence plus avantageusement organisés, cette femme avait entendu le pas d'un homme dans une galerie bâtie au-dessus des cuisines et des salles destinées au service de la maison, et par laquelle le quartier de devant communiquait avec le quartier de derrière. Le bruit des pas devint de plus en plus distinct. Bientôt, sans avoir la puissance avec laquelle une créature passionnée comme l'était cette femme suit souvent abolir l'espace, pour s'unir à son autre moi, un étranger aurait facilement entendu le pas de cet homme dans l'escalier par lequel on descendait de la galerie au parloir. Au retentissement de ce pas, l'être le plus inattentif eût été assailli de pensées, car il était impossible de l'écouter froidement. Une démarche précipitée ou saccadée effraie. Quand un homme se lève et crie au feu, ses pieds parlent aussi haut que sa voix. S'il en est ainsi, une démarche contraire ne doit pas causer de moins puissantes émotions. La lenteur grave, le pas traînant de cet homme, eût sans doute impatienté des gens irréfléchis. Mais un observateur ou des personnes nerveuses auraient éprouvé un sentiment voisin de la terreur au prix mesuré de ses pieds, d'où la vie semblait absente, et qui faisait craquer les planchers comme si deux poids en fer les eussent frappés alternativement. Vous eussiez reconnu le pas indécis et lourd d'un vieillard, ou la majestueuse démarche d'un penseur qui entraîne des mondes avec lui. Quand cet homme eut descendu la dernière marche, en appuyant ses pieds sur les dalles, par un mouvement plein d'hésitation, il resta pendant un moment dans le grand palier où aboutissait le couloir qui menait à la salle des gens, et d'où l'on entrait également au parloir par une porte cachée dans la boiserie, comme l'était parallèlement celle qui donnait dans la salle à manger. En ce moment, un léger frissonnement, comparable à la sensation que cause une étincelle électrique, agita la femme assise dans la bergère. Mais aussi le plus doux sourire anima ses lèvres, et son visage, ému par l'attente d'un plaisir, resplendit comme celui d'une belle madone italienne. Elle trouva soudain la force de refouler cette erreur au fond de son âme, puis elle tourna la tête vers les panneaux de la porte qui allait s'ouvrir à l'angle du parloir, et qui fut en effet poussée avec une telle brusquerie que la pauvre créature paraît en avoir reçu la commotion. Balthazar Claës se montra tout à coup, fit quelques pas, ne regarda pas cette femme, ou s'il la regarda, ne la vit pas, et resta tout droit au milieu du parloir, en appuyant sur sa main droite, sa tête légèrement inclinée. Une horrible souffrance à laquelle cette femme ne pouvait s'habituer, quoiqu'elle revînt fréquemment chaque jour, lui étreignit le cœur, dissipa son sourire, plissa son front brun entre les sourcils vers cette ligne que creuse la fréquente expression des sentiments extrêmes. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les essuya soudain en regardant Balthazar. Il était impossible de ne pas être profondément impressionné par ce chef de la famille Claës. Jeune, il avait dû ressembler au sublime martyr qui menaça Charles Quint de recommencer à Vermeveld. Mais en ce moment, il paraissait âgé de plus de 60 ans, quoiqu'il en eût environ 50, et sa vieillesse prématurée avait détruit cette noble ressemblance. Sa haute taille se voûtait légèrement, soit que ses travaux l'obligeassent à se courber, soit que l'épine dorsale se fût bombée sous le poids de sa tête. Il avait une large poitrine, un buste carré. Mais les parties inférieures de son corps étaient grêles, quoique nerveuses. Et ce désaccord, dans une organisation évidemment parfaite autrefois, intriguait l'esprit qui cherchait à expliquer, par quelque singularité d'existence, les raisons de cette forme fantastique. Son abondante chevelure blonde, peu soignée, retombait sur ses épaules à la manière allemande, mais dans un désordre qui s'harmonisait à la bizarrerie générale de sa personne. Son large front offrait d'ailleurs les protubérances dans lesquelles Gall a placé les mondes poétiques. Ses yeux d'un bleu clair et riche avaient la vivacité brusque que l'on a remarquée chez les grands chercheurs de causes occultes. Son nez, sans doute parfait d'autrefois, s'était allongé, et les narines semblaient s'ouvrir graduellement de plus en plus par une involontaire tension des muscles olfactifs. Ses pommettes velues saillaient beaucoup. Ses joues déjà flétries en paraissaient d'autant plus creuses. Sa bouche, pleine de grâce, était resserrée entre le nez et un menton court, brusquement relevé. La forme de sa figure était cependant plus longue qu'ovale. Aussi le système scientifique qui attribue à chaque visage humain une ressemblance avec la face d'un animal eut-il trouvé une preuve de plus dans celui de Balthazar Claës que l'on aurait pu comparer à une tête de cheval. Sa peau se collait sur ses os comme si quelque feu secret l'eût incessamment desséché. Puis par moments, quand il regardait dans l'espace, comme pour y trouver la réalisation de ses espérances, on eût dit qu'il jetait par ses narines la flamme qui dévorait son âme. Les sentiments profonds qui animent les grands hommes respiraient dans ce pâle visage fortement sillonné de rides, sur ce front plissé comme celui d'un vieux roi plein de soucis, mais surtout dans ses yeux étincelants, dont le feu semblait également accru par la chasteté que donne la tyrannie des idées et par le foyer intérieur d'une vaste intelligence. Les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites paraissaient avoir été cernés uniquement par l'éveil et par les terribles réactions d'un espoir toujours déçu, toujours renaissant. Le jaloux fanatisme qu'inspire l'art ou la science se trahissait encore chez cet homme par une singulière et constante distraction dont témoignaient sa mise et son maintien en accord avec la magnifique monstruosité de sa physionomie. Ses larges mains poilues étaient sales, ses longs ongles avaient à leurs extrémités des lignes noires très foncées. Ses souliers ou n'étaient pas nettoyés ou manquaient de cordons. De toute sa maison, le maître seul pouvait se donner l'étrange licence d'être aussi malpropre. Son pantalon de drap noir plein de taches, son gilet déboutonné, sa cravate mise de travers et son habit verdâtre toujours décousu complétaient un fantasque ensemble de petites et de grandes choses qui chez tout autre eût décelé la misère qu'engendrent les vices, mais qui, chez Balthazar Claës, était le négligé du génie. Trop souvent, le vice et le génie produisent des effets semblables auxquels se trompe le vulgaire. Le génie n'est-il pas un constant excès qui dévore le temps, l'argent, le corps et qui mène à l'hôpital plus rapidement encore que les passions mauvaises? Les hommes paraissent même avoir plus de respect pour les vices que pour le génie, car ils refusent de lui faire crédit. Il semble que les bénéfices des travaux secrets du savant soient tellement éloignés que l'état social craigne de compter avec lui de son vivant, et il préfère s'acquitter en lui, n'en pardonnant pas sa misère ou ses malheurs. Malgré son continuel oubli du présent, si Balthazar Claës quittait ses mystérieuses contemplations, si quelque intention douce et sociable ranimait ce visage penseur, si ses yeux fixes perdaient leur éclat rigide pour peindre un sentiment, s'il regardait autour de lui en revenant à la vie réelle et vulgaire, il était difficile de ne pas rendre involontairement hommage à la beauté séduisante de ce visage, à l'esprit gracieux qui s'y peignait. Aussi chacun, en le voyant alors, regrettait-il que cet homme n'appartînt plus au monde, en disant « Il a dû être bien beau dans sa jeunesse. » Erreur vulgaire. Jamais Balthazar Claës n'avait été plus poétique qu'il ne l'était en ce moment. Lavater aurait voulu certainement étudier cette scène pleine de patience, de loyauté flamande, de moralité candide, où tout était large et grand, où la passion semblait calme parce qu'elle était forte. Les mœurs de cet homme devaient être pures, sa parole était sacrée, son amitié semblait constante, son dévouement eût été complet. Mais le vouloir qui emploie ses qualités au profit de la patrie, du monde ou de la famille, s'était porté naturellement ailleurs. Ce citoyen, tenu de veiller au bonheur d'un ménage, de gérer une fortune, de diriger ses enfants vers un bel avenir, vivait en dehors de ses devoirs et de ses affections, dans le commerce de quelques génies familiers. À un prêtre, il eût paru plein de la parole de Dieu. Un artiste l'eût salué comme un grand maître. un enthousiaste l'eût pris pour un voyant de l'église swedenborgienne. En ce moment, le costume détruit, sauvage, ruiné, que portait cet homme, contrastait singulièrement avec les recherches gracieuses de la femme qu'il admirait si douloureusement. Les personnes contrefaites qui ont de l'esprit ou une belle âme apportent à leur toilette un goût exquis, ou elles se mettent simplement en comprenant que leur charme est tout moral, ou elles savent faire oublier la disgrâce de leurs proportions par une sorte d'élégance dans les détails qui divertit le regard et occupe l'esprit. Non seulement cette femme est une âme généreuse, mais encore elle aimait Balthazar Claës avec cet instinct de la femme qui donne un avant-goût de l'intelligence des anges. Élevée au milieu d'une des plus illustres familles de la Belgique, elle y aurait pris du goût si elle n'en avait pas eu déjà. Mais, éclairée par le désir de plaire constamment à l'homme qu'elle aimait, elle savait se vêtir admirablement sans que son élégance fat fît disparaître avec ses deux vis de conformation. Son corsage ne baissait d'ailleurs que par les épaules, l'une étant sensiblement plus grosse que l'autre. Elle regarda par les croisées dans la cour intérieure, puis dans le jardin, comme pour voir si elle était seule avec Balthazar, et lui dit d'une voix douce, en lui jetant un regard plein de cette soumission qui distingue les Flamandes, car depuis longtemps l'amour avait entre eux chassé la fierté de la grandesse espagnole. « Balthazar, tu es donc bien occupé. Voici le 33e dimanche que tu n'es venu ni à la messe, ni à vêpres. » Claës ne répondit pas. Sa femme baissa la tête, joignit les mains et attendit. Elle savait que ce silence n'accusait ni mépris ni dédain, mais de tyranniques préoccupations. Et Balthazar était un de ces êtres qui conservent longtemps au fond du cœur leur délicatesse juvénile. Il se serait trouvé criminel d'exprimer la moindre pensée blessante à une femme accablée par le sentiment de sa disgrâce physique. Lui seul, peut-être, parmi les hommes, savait qu'un mot, un regard peuvent effacer des années de bonheur, et ce d'autant plus cruel qu'il contraste plus fortement avec une douceur constante. Car notre nature nous porte à ressentir plus de douleur d'une dissonance dans la félicité que nous éprouvons de plaisir à rencontrer une jouissance dans le malheur. Quelques instants après, Balthazar parut se réveiller, regarda vivement autour de lui et dit « Vêpres ! Oh, les enfants sont à vêpres !» Il fit quelques pas pour jeter les yeux sur le jardin où s'élevaient de toutes parts de magnifiques tulipes. Mais il s'arrêta tout à coup, comme s'il se fût heurté contre un mur, et s'écria « Pourquoi ne se combinerait-il pas dans un temps donné ? Mais deviendrait-il donc fou ? Se dit sa femme avec une profonde terreur.